Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. On s'aime fort. Le podcast du jardin. Bienvenue à bord de ce nouveau podcast. Nous sommes le vendredi 17 novembre. On est ravis de vous retrouver. Les pieds toujours dans l'eau, mais heureusement que les pieds. Bonjour Eric.
Salut Brice.
C'est mouillé, hein.
Très mouillé, oui. Et puis avec des sols qui sont complètement engorgés d'eau. Voilà, donc on voit bien. Hein, les feuilles ne s'envolent pas, comme on dit. Ils restent bien au sol parce qu'elles sont bien engorgées d'eau. Alors ça, c'est une bonne idée. Et une bonne nouvelle parce que ça va permettre la décomposition des feuilles beaucoup plus rapide et une activité encore très forte du sol, hein, pour l'écosystème sol. Mais globalement, là, on peut vraiment absolument rien faire au jardin. Hein. Et je crois que, bon, bien sûr, on pense toujours à ceux qui ont encore un mètre d'eau chez eux. Et voilà, ça, c'est terrible. Mais même chez les autres, je veux dire, travailler au jardin aujourd'hui, c'est très compliqué. Sauf si vraiment on a un sol qui est plutôt... sableux limoneux, hein, mais le reste, c'est impossible à travailler dedans.
Bon, concrètement, là, il n'y avait pas grand-chose à faire, mis à part, alors si on va tout de suite enchaîner sur le tempo du jardin, hein, où tu nous proposes effectivement de semer, bon, on voit bien que
ouais, là, c'est,
le gazon, ce n'est pas la peine, les prairies fleuries, non. Éventuellement, et les engrais verts, c'est très compliqué.
Même d'aller chercher une salade au jardin...
Ouais, t'en as plein les bottes.
Après, il faut bientôt prendre une douche et se changer, parce que... Voilà, j'ai jamais autant lavé les salades là, parce que là ils sont maintenant projetés même de terre dessus, hein, même si on a un peu paillé. Les limaces ont encore une action assez très forte, parce qu'il fait pas froid.
Donc, ça devrait aussi changer. Hein, le froid arrive la semaine prochaine d'ailleurs.
Tout à fait, ouais, bah, c'est une bonne chose pour finir faire tomber les feuilles encore. Parce que là il y a une partie des feuilles, alors ça dépend des secteurs. Hein, on voit bien les secteurs qui ont un peu souffert de la sécheresse sont plus jaunes, enfin plus automnales normalement. Mm-hmm. Là c'est tout à fait normal, alors que d'autres secteurs où il y avait un peu plus de flotte, on voit que les arbres qui ont un peu repris, les feuilles c'est compliqué, hein. Donc, et là j'ai encore regardé la photo terrible d'un copain qui habite à 15 km de chez moi, où les arbres, les néfliers allemands, hein, c'est-à-dire germanica, hein, ceux qui donnent des nèfles, pas du Japon mais les autres, il y a le fruit et les fleurs à côté. Donc c'est quand même assez surprenant. Et son prunier qui avait fleuri il y a un petit mois, bah là maintenant il y a des prunes. Ça c'est... Alors bien sûr les prunes ne seront pas viables, hein, parce qu'ils sont même un peu jaunes, parce que la fécondation n'a pas été optimale et puis la durée du jour n'est pas assez longue pour que ça puisse rentrer dans un exercice, je dirais, de développement normal. Mais ce qui est quand même terrible à dire, c'est que c'est la première fois que... Bon, j'avais déjà vu des petites poirettes, hein, par exemple, parce que des fois, les poiriers peuvent refleurir. Ça fait d'éternité que les poiriers refleurissent de temps en temps. Mais là, des prunes, c'était bien la première fois de revoir des prunes à cette époque-là, hein, ce qu'on appelle le jeune fruit. Donc, ça montre bien qu'on est dans une situation... un peu particulière. Le sol permet aussi, pour l'instant, comme il y a beaucoup d'eau... Le froid n'est pas très intense, hein, parce que ça permet de conserver, je dirais, une certaine température. Par contre, les sols, là, quand je vois dans les champs, l'eau qui coule, les coulées de boules,
c'est très compliqué, effectivement, de pouvoir derrière, et en tant que professionnel, bien sûr, assurer des semis, en tant que particulier, avec les enjeux qui sont moindres, hein, on est d'accord, de pouvoir travailler sur la problématique. Sur cette problématique-là, parce qu'il n'y a pas de solution au final. Il n'y a pas de solution, non. C'est ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire, à part
oui,
attendre, bon, ça devrait se calmer.
Oui, c'est ça. Mais bon, par contre, ce qui est super intéressant, dans le malheur des autres, hein, parce que je veux dire, que le sol soit gorgé d'eau, là, chez nous, on s'en fout.
Oui, on est d'accord. Oui.
Voilà. Mais par contre, voilà, il faut toujours regarder le malheur des autres. On montre bien que changement climatique et aménagement du territoire, il va falloir qu'on aménage autrement. Mmh. S'il y a de la boue, c'est que l'eau, s'il y avait un couvert végétal sur la terre, il n'y aurait pas des coulées de boue. Ou si il peut y avoir une montagne, enfin un flanc de montagne qui peut s'écrouler, que ça soit le long de la côte ou que ça soit une falaise et compagnie, parce que pour des situations entre sécheresse et trop d'humidité. Mais les coulées de boue, ça veut bien dire que l'eau a coulé sur de la terre, et là, cette terre a enlevé les particules les plus fines pour les regrouper dans la rivière, et ainsi de suite. Donc ça montre bien aussi qu'il y a un aménagement de territoire, et puis il y a des communes boulevards, hein, où là, il y a toute la flotte chez eux, hein, et tout le monde est très heureux. Je voyais dans les visages, il y en a à chaque fois, ils disaient, mais nous, ça va parce qu'on habite en hauteur. Mmh. Si c'est la solution, c'est d'habiter en hauteur.
Oui, il n'y aura plus de place en hauteur au bout d'un moment.
Au bout d'un moment, et on sait très bien que les communes, se sont, quand il y avait de la flotte, se sont souvent construites le long des cours d'eau. Donc, tout à chacun peut avoir maintenant, si on habite non loin, on a une commune où il y a un cours d'eau qui passe, ou un rue, un cours d'eau, ça peut être pas forcément une rivière, hein, mais un rue, quelque chose, voilà, d'être submergé. Donc, il y a un aménagement de territoire qui va faire que... Il va falloir réfléchir sur que les sols soient bien couverts, de remettre des haies, pas comme c'est fait aujourd'hui un peu à l'arrache, où la moitié des haies crèvent, mais donc de mettre une véritable politique de la haie avec la possibilité que ces haies puissent survivre à des canicules, hein, parce qu'il y a plein de haies qui ont été mises qui sont mortes maintenant.
Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la volonté de l'exécutif aussi, de remettre je ne sais plus combien de milliers de kilomètres de haies. Pourquoi elles n'ont pas survécu, Eric ? Ça n'a pas été
Oui, de toute façon, c'est ça le principe. C'est qu'à dire que, bien sûr, si on plante des arbres à côté d'une forêt, d'un milieu, si on agrandit un espace de vie, une forêt, un bosquet, un massif, l'influence du bosquet, de la forêt, de la lisière, c'est compliqué, mais au moins, l'aménagement précédent qui permet de garder la flotte et de pouvoir partager avec les nouvelles plantations à proximité. Donc ça montre bien qu'il ne faut pas simplement qu'on ait des objectifs, quantitatifs, avec tant de milliers de kilomètres de haies qui sont plantées tous les ans, mais aussi il faut qu'on ait, en plus de ça, il faut qu'on ait des objectifs qualitatifs, c'est-à-dire de dire, 98% des haies qui ont été plantées, ils sont encore là, ils ont poussé, parce que entre en plus survivre et vivre, il y a encore aussi un delta. Moi, j'ai vu des haies survivre, hein, c'est-à-dire ils ont été plantés, mais le voisin, quand il fauche, il les broie. Alors c'est sûr, hein, ils sont pas mortes, hein, parce que c'est recépé tous les ans. Mais bon, c'est pas sérieux. Hein. Et puis il y a aussi une forte pression de l'animal, hein, des gros gibiers aussi qui font que ça broute. Hein. Donc il faut mettre une protection, c'est-à-dire que il faut protéger les haies, comme si il faut se dire que voilà, la haie qu'on a plantée 10 ans après doit être présente. Bon, il peut y avoir des erreurs, hein, ça c'est pas de souci. Mais donc il faut une véritable protection, comme dans une forêt, quand on va sanctuariser des lieux pour éviter qu'ils soient broutés par le grand mammifère ou par des voisins qui ont toujours tendance à mettre le girobroyeur un peu trop près de la haie, quoi. Voilà.
Donc ce que tu es en train de dire là, si on te suit concrètement, c'est que, alors c'est très bien la politique publique de l'installation de haies, mais si c'est pour planter et ne pas s'en occuper derrière, ça sert à strictement rien. On met des millions sur la table, mais en fait les haies tiennent pas parce qu'il faut un minimum d'arrosage, il faut s'en occuper.
Ouais, c'est ça. Et là après, sans taper sur les agriculteurs, mais des fois la haie est imposée entre guillemets. Ouais. Donc parce que on a encore si on met une haie, on va perdre le long de ce linéaire, on va perdre une quantité de maïs, on va perdre une quantité de blé, mais parce que c'est mal expliqué, il y a la formation qui est pas bonne, tout simplement pour dire alors après bien sûr, si on donne des millions d'euros pour dire on compense la non-production de blé pendant un temps certain. Ce qui est souvent, il y a une concurrence, hein, faut pas se leurrer. Mais globalement, sur l'ensemble de la parcelle, un jour, quand il n'y aura plus de sol, parce qu'il n'aura plus tellement fort que toute la litière, c'est-à-dire la première couche, elle sera plutôt sur la route ou l'autoroute ou dans les bassins à proximité, on pourra faire ce que l'on veut, on pourra mettre tous les minéraux qu'on veut dans le sol. Au moins il n'y aura pas trop d'air, parce que avec le glyphosate qui a été reconduit pendant 10 ans, comme ça on est tranquille. Mais c'était une boutade. Hein.
Oui, oui, bah oui.
Donc voilà, non mais
notre cher ministre vient de dire ce matin que la France s'est abstenue. Elle n'a pas voté non, elle s'est abstenue, ce qui revient à la même chose.
Oui, bon, voilà.
C'est une position normand, on va dire ça. Et on n'a rien contre
le Normand. Complètement. Alors bien sûr, on sait que voilà, chez certains agriculteurs, ils n'ont pas de solution à part le glyphosate. Ouais. Je le comprends, ça c'est clair. Hein. Parce que si on met un désherbant, on l'enlève, ben, on mettra un autre désherbant.
Dans ces cas-là, c'est compliqué pour le gouvernement de tenir une position il y a quelques années en disant il faut qu'on sorte du glyphosate sous 3 ans. Et qu'au final, voilà, enfin, le débat il est là, je pense. Dites-nous.
Non, mais c'est
pensez,
pour ça mais... que ça soit la politique de la haie ou que ça soit la politique. Alors quand je dis de la haie champêtre, ou que ça soit la politique du glyphosate, il faut avoir un peu de voilà, il faut avoir un peu de volonté, mais par contre que ça soit pas une annonce ou simplement une action immédiate. Il faut accompagner les agriculteurs pour changer leurs pratiques, pour se passer du glyphosate, trouver d'autres solutions au désherbage.
C'est ça.
C'est pas une solution au glyphosate, c'est une solution
au désherbage. On est d'accord.
Et par rapport à la haie, c'est pareil. Les milliers de haies qui se sont construites pendant des centaines et des centaines d'années.
Ouais. C'est pas en trois ans que tu remplaces l'eau. Quoi.
Si on les remet, même si ça pousse très bien, grâce à l'action d'ailleurs des engrais peut-être à proximité qui leur filent un coup de fouet tellement fort que ils s'enrhument, ils ont de l'oïdium et compagnie. Donc ça, c'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait faut que ça dure sur le temps. Voilà.
Bien. Eric, on va tout de suite au tempo. Dans un monde idéal, dans un sol ressuyé, on sème encore un peu les pelouses.
Là, il faut savoir que vu ce qu'il a plu partout, faut attendre
au moins une semaine.
7,
hein.
8. Ouais, même plus que ça, sans pluie.
Sans pluie, voilà.
Parce qu'en plus, comme il y a de l'humidité, et puis il faut des soleils, donc on est tranquille.
On n'est pas du tout bon là. Mon cher Eric, on n'a même pas présenté le sommaire, enfin le dossier du jour. On va passer dans un instant évidemment vos questions-réponses, chères auditrices et chers auditeurs. On donne un indice, bonne année.
Ouais, c'est ça, c'est toujours la bonne année.
On va souhaiter la bonne
année. C'est ça. Bon, alors bien sûr, comme toutes les cartes de vœux, c'est les mêmes tous les ans, globalement. Donc le texte qu'on va proposer pour ceux qui lisent sur le blog, il n'y aura pas trop de changements par celui de l'année dernière, parce que c'est une bonne année, c'est une bonne année. Mes vœux, mes plus sincères, bonne santé.
Oui, et puis on voit ce que ça donne derrière.
Ça sera le même texte, hein, mais par contre, il y a une petite explication parce que on donnera un peu l'info et. Et ça sera un jour ou une semaine très longue après ces pluies, parce qu'il y a pas mal de choses à faire au jardin pour être vraiment tranquille les mois qui vont suivre.
Allez, je te propose de passer aux questions de nos auditeurs qui sont nombreux à nous contacter sur contact@monjardinbio.com. On va commencer avec Virginia, on part dans l'Essonne. Bonjour Brice et bonjour Eric, fidèle auditrice de votre podcast inspirant et sympathique. Je me permets de vous solliciter à nouveau. Mon mari et moi avons démonté une piscine hors sol qui était en place depuis 13 ans afin de la remplacer par un deuxième petit potager d'environ 15 mètres carrés. Après démontage et retiré à la truelle, une couche d'environ 0,5 cm, ça me paraît pas beaucoup chose ça, mais de ciment, de sable, couche qui s'était formée suite à l'épandage de sable et de ciment au montage de la piscine. J'ai ensuite passé la grelinette et j'ai été surprise de constater qu'elle pénétrait assez facilement, peut-être grâce aux nombreuses pluies des jours précédents. Puis j'ai répandu une couche de compost et du fumier de cheval frais, un peu de cendre ainsi qu'un broyage de taille d'arbuste. Mes questions: dois-je mélanger tous ces apports au premier centimètre de terre?
C'est-à-dire que de toute façon, quand elle a enlevé, il y a quand même encore une structure importante du sol, donc c'est pas très grave. Donc sauf si vraiment il y a eu des produits qui ont été mis dedans, parce que des fois la piscine, il y a eu des produits. Alors maintenant, ça va de mieux en mieux, le type de produits.
Tu parles de quoi, de chlore éventuellement, c'est ça?
Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Donc la
quelle fuite dans ces cas-là? S'il y a une fuite.
C'est ça, où des fois il y a eu des débordements, ou quand par exemple il y a des éclaboussures parce que ça gigote dans la piscine et compagnie. Donc je dirais que c'est plutôt ça qui me fait plus peur des fois par rapport à ce type de sol que le matériau qui a été en dessous, parce qu'on a mélangé avec des petits cailloux, des gravats, des trucs, Donc le but du jeu, c'est d'enlever le maximum de morceaux de ciment et compagnie. Et puis après, ce qui reste, de le mélanger avec de la terre. Par contre, de la terre qui soit bien... on met de la terre et puis après, il faut quand même bien l'amender.
Donc
un amendement n'est pas un engrais. C'est-à-dire, si vous remettez, là, vous avez de la terre mélangée avec les gravillons, et puis après vous mettez un engrais, coup de fouet ou même de la corne et compagnie, c'est pas ça qu'il faut mettre, il faut restructurer le sol.
Alors justement, donc
c'est ce qu'on appelle donc c'est ce qu'on appelle un amendement. Et donc ça c'est valable pour plein d'auditeurs et d'auditrices. C'est-à-dire que là on va pas jouer sur le moment. Alors, le moment jardin c'est l'année, hein, pour faire simple. Enfin, quelques mois à une année. Là c'est plutôt sur le type de sol pour que ça puisse durer. Donc la seule solution c'est vraiment de la terre, c'est l'élément entre guillemets minéral ou qui contient de l'humus ou pas, hein, un petit peu quand même, même si c'est faible. En principe, c'est l'idéal, c'est 3% d'humus. Ça c'est ça. Et donc là, la seule solution, c'est d'apporter du compost. Hein.
Justement, alors je continue. Pensez-vous que cela suffise à rendre la terre suffisamment fertile pour des cultures de légumes ratatouille au printemps prochain, sachant qu'elle ne présente aucune racine ni signe de vie souterraine? Et va-t-elle se repeupler tout seul, justement, tu en parlais il y a un instant, ou est-ce qu'il faut apporter du style un bactériosol, on va donner la marque, ce type de produits qui sont en fait des bactéries qui permettent derrière de réactiver un peu la vie du sol? Je précise enfin que ma terre est plutôt argileuse et qu'avant la piscine c'était de la pelouse. Au plaisir de vous entendre au prochain podcast et encore merci pour votre partage. Du coup, est-ce que
globalement, il faut le fait qu'il y ait la piscine a fait qu'il n'y a plus de lumière, ça a été tassé.
C'est ça.
Ça va, faut pas oublier qu'un mètre cube d'eau c'est une tonne, hein. Donc ça va, c'est un poids certain. Ça veut dire que le sol est tassé, même s'il y avait un peu de porosité autour, à cet endroit-là, c'est tassé. D'ailleurs, souvent, quand on enlève ce type de piscine, on voit bien que ça peut flaquer parce que c'est plus bas, la terre est plus basse. Donc, ça montre bien que la porosité du sol a diminué. Et donc, l'objectif, c'est vraiment, ce qui a bien été fait par l'auditrice, c'est de greliner l'ensemble pour la créer de l'air, entre guillemets. Mais par contre, il faut mettre vraiment du terreau qui va permettre de faire ce qu'on pour améliorer, je dirais, la structuration du sol pour faire du trou. Parce que là, il faut du trou, voilà. C'est-à-dire de la porosité. Il faut atteindre 50% de porosité d'un sol. La seule solution, c'est le compost, le terreau, si c'est une petite surface, hein, et si on n'a pas assez de compost. Ça peut être aussi de l'achat de compost, de plateforme de compostage, hein, qui peut être livré en camionnette ou camion ou en gros sac. Et puis après, bien sûr, pour mettre de la vie, il faut donner à manger. Parce que là, quand on met du compost, on donne pas à manger réellement aux micro-organismes, parce que là, c'est déjà fait. Les micro-organismes ont déjà travaillé avant. Et donc là, il faut, par exemple, pour faire sur cette zone, ce qui est souvent la piscine, là, c'est à mon avis un cercle. Ça serait de piqueter ce cercle, je dirais, avec des petits bâtons, pour bien montrer où elle était avant. De toute façon, on le voit bien au niveau de la couverture du sol. De mettre 30, 40, 50 cm de feuilles dessus, après l'amendement. Et après, cette zone-là servira de zone pour les légumes fruits. Hein.
Donc, Virginia est dans la bonne veine, là, dans la bonne voie.
Tout à fait. Et là, il ne faut pas avoir peur, par exemple, de récupérer... parce que comme il ne fait pas froid, les jardinières... les plantes de massif sont encore bien, hein, je veux dire, ça fleurit de partout, c'est génial. Par contre, dès qu'il va commencer à faire froid, peut-être aller dans l'Essonne. Hein,
c'est ça, dans l'Essonne, oui.
Dans l'Essonne, oui. Bon, qui n'est pas forcément un département où on fleurit, comme ça peut être en Savoie, Haute-Savoie, en Alsace et compagnie, mais de récupérer des jardinières de la commune et autres, que souvent c'est jeté, ou mis en décomposition, ou recyclé pour... je dirais sur un tas pour faire simple, là aussi on peut apporter des déchets un peu plus gros à cet endroit là pour redonner de l'activité, quoi. Mais là il faut vraiment apporter du compost ou du fumier décomposé, et à recouvrir de feuilles, mais des grosses quantités de feuilles au-delà des 30 cm.
Bien, donc sur la bonne voie, un avis tout à fait neutre, Eric, sur les intrants, comme l'appelle Virginia, type bactériosol, on va le rappeler, hein, c'est des micro-organismes.
Ouais. Il y a aussi, oui, c'est ça, c'est des...
On va donner une autre marque, même si...
oui, parce que bactériosol, c'est une marque.
C'est une marque, effectivement, mais dans la même veine, alors c'est pas la même chose, c'est pas la même technologie, bactériosol, c'est des micro-organismes. mécanismes. Sur Terra Fertilis, par exemple, c'est du biochar qui est aussi amendé de micro-organismes. Bon, il y a un peu deux écoles entre guillemets. On peut aussi citer sur le marché. Alors c'est plus sur de l'agricole, mais Gaiago notamment sur des produits à pulvériser plutôt en grande culture. Mais voilà, on est un peu dans la même veine de rapporter du vivant dans le sol. Ton avis et encore une fois, je
disons
très
que
objectif.
De toute façon, il faut pas oublier qu'à mon avis, chez l'auditrice, la piscine, c'est quand même une petite partie de son jardin. Mmh.
15 mètres carrés, une fois, a priori.
Ouais, 15 mètres carrés. Donc, on suppose qu'il y a peut-être quand même 3 ou 4 arbres peut-être autour. Bon, je veux dire, une fois qu'on va recréer de la vie en enlevant le poids, en évitant les éclaboussures de l'eau et compagnie, même si c'était peu chargé, tout doucement, la vie va se remettre grâce à l'influence des autres parties. Et puis, si on met à manger, les bestioles vont aller chercher à manger, quoi. Donc, voilà. Moi, de tout ce qui va être bactériosol, enfin, tout ce qui va apporter des organismes, je dirais, pour redonner de la vie au sol, hein. Chez certains très puristes, on peut appeler ça les EM aussi. Moi je trouve que c'est plus nécessaire sur la grande culture, quoi.
C'est plus nécessaire sur la grande culture que au jardin, culture.
C'est ça. D'accord. Voilà. Pourquoi, à moins d'avoir des hectares de sol ou des grandes quantités,
on commercialise du bactériosol depuis 4-5 ans. Est-ce que il peut y avoir un apport, notamment, je pense à des carrés potagers où là on sait très bien que l'échange n'est pas du tout avec le vivant. Est-ce que sur certaines applications c'est utile
Disons par exemple, on sait plus utile quand on a un jardin dans un lotissement.
Ouais.
Voilà, parce que il y a tellement de pression anti-sol chez le voisin, la voisine.
Ouais, les dallages,
la
roue, le gravillon.
Voilà. Okay. Que l'influence du milieu extérieur, c'est compliqué. C'est comme une personne qui me dit je vais en mettre, alors qu'elle est long d'une forêt ou d'une ripisylle. Il y a tellement une bonne influence des milieux de vie à proximité que ça va. Là, c'est pas nécessaire.
Donc, c'est pas nécessaire. Contre, ouais. Mais par contre, sur le sol altéré, là, tu dis oui, ça a un intérêt. Quoi.
Voilà, et puis même par exemple, sur les espaces verts d'une commune, ou quand on est dans un milieu d'un quartier. Hier, j'étais sur un travail de fond qui me gonfle d'ailleurs. Pardon. Il y a que des bâtiments, les entreprises qui ont mis 4,5 millions pour refaire. C'était le bon prix, hein, sûrement. Parce que je dis ça parce qu'il y a peu d'argent qui est donné pour le jardin. Pour faire l'isolation et compagnie, ils m'ont roulé sur le jardin, ils m'ont tassé l'ensemble, ils m'ont mis des zones, il y avait des ciments, ils m'ont mis des regards, ils ont travaillé comme des cochons. De mettre ça, par exemple, bactériosol ou type de régénération de sol, ça me semble important parce que ça fait quand même plusieurs arts de terrain d'un seul coup. Donc ça me semble. Voilà, les roues, la roue, hein. Là, j'en profite parce que le sol n'est pas prêt de se ressuyer. Si vous avez des travaux, sanctuarisez votre jardin en disant
passez pas dessus.
Passez pas dessus parce que vous pouvez pas imaginer le passage et le repassage de roues de tracteur ou d'un tractopelle, c'est terrible.
Surtout sur un sol qui est totalement gorgé d'eau, on est d'accord.
Exactement, voilà.
Voilà Virginie, on passe à Corinne qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice. Fidèle auditrice depuis 2 ans, j'ai la chance de vivre en Bretagne et d'avoir la malchance d'avoir essuyé de plein fouet la tempête. Kiaran, nous avons pour l'heure qui n'a toujours pas d'électricité, ce qui est dur à vivre. Alors je précise ce message, et désolé Corinne, on avait beaucoup 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 de messages, c'est compliqué. De traiter tout, donc désolé pour le retard. On a eu le message il y a une petite dizaine de jours. Ce qui m'amène aujourd'hui, nous avions un terrain, une serre fabriquée par les anciens propriétaires qui a rendu l'âme pendant les rafales, irréparable. Je vous mets des photos hein, donc dans l'ancienne serre qui avait une forme originale en forme de yourte, mais je ne trouvais pas forcément très pratique. Et l'espace tel qu'il est désormais, il y a environ 10 mètres sur 5 exploitables pour une prochaine serre, mais pas forcément si grande, et nous sommes une famille de 4 personnes. La question que j'aimerais vous poser est de savoir si vous avez des conseils de serre, en gros des marques, les tailles, les formes à me donner, sachant que l'emplacement est relativement protégé des vents dominants, mais pas assez en cas de tempête hein, apparemment, mais bon, on est vraiment sur des événements extraordinaires qui peuvent devenir l'ordinaire. Eric, c'est ce que tu nous dis depuis 4 ans à juste titre. Idéalement, j'aimerais avoir une serre où je peux retirer le plastique l'hiver en cas de tempête, par exemple, pour éviter ce qui s'est produit cette semaine. Cela existe-t-il, sans avoir à changer la bâche tous les ans? Et puis l'usage de la serre est principalement pour des semis, des tomates, poivrons, aubergines et des cultures compliquées en extérieur par chez nous, surtout avec des étés comme cette année, qui étaient des étés plutôt frais, hein, très logique et plus vieux. Notre perte et notre inconfort sera tout de même relatif et je profite de votre podcast pour envoyer tout mon soutien à ceux qui sont dans les situations plus compliquées. Courage à tous, signé donc Corinne du Finistère Sud. Dossier serre, Eric, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce que tu as des marques? Est-ce que tu as des...
Alors, il y a des marques, alors, je dirais plutôt, parce que souvent la marque a une spécificité par rapport au type de serre. Alors, déjà, éviter pour les bâches, parce que des fois, là, parce que là peut-être il faut changer la bâche, de prendre des bâches qui sont avec renforcées. Ça fait des petits carrés, hein, voilà, ça fait un espèce de damier. Parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs essais qui ont été faits. Alors, réfléchissez bien, discutez bien avec votre vendeur. Mais souvent, quand il y a des petits carrés, parce qu'il y a, c'est armé dedans, entre guillemets, ça fait loupe au niveau de ces micro-carrés, hein, qui font des fois un petit centimètre, hein, simplement de côté. Et en fin de compte, ça sèche encore plus et la bâche tient moins longtemps.
Ok. Ça, et au hasard, attends Eric, juste comme ça on y va. Et au hasard, cette bâche, une fois qu'elle est très dégradée, elle se morcelle en millions de petits bouts, c'est ça?
Parce qu'on la voit, on voit même pas que ça se morcelle.
Et ça se retrouve dans la terre, quoi.
Voilà, c'est ça. Parce que des fois, il y en a qui disent, ça se déchire, j'ai des morceaux de 15, 20, 30 centimètres. En fait, oui, mais au moins on les voit, quoi. C'est ça. Mais le reste là, c'est après quand on l'utilise, ça craque, c'est comme une biscotte.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vois exactement.
Et là, c'est terrible. Alors plutôt la bâche translucide, comme les professionnels,
ouais, d'accord,
hein, qui ont ça, qui est souvent en plus moins cher. Quoique, vu l'augmentation qu'il y a eu, maintenant le prix s'est rattrapé. Bon, voilà, ça c'est une chose. Voilà, c'est important. Aussi éviter, prenez plutôt les serres qui sont ce qu'on appelle ovales.
D'accord.
C'est-à-dire parce que souvent, ça c'est des cas pratiques que j'ai eu, hein. Des fois on peut prendre une serre où il y a un côté droit sur le côté, puis après ça fait un toit, qui est donc, ça permet d'être debout, il y a une hauteur plus importante sur les côtés, parce que quand on a l'arrondi, on perd ce côté arrondi pour être en situation, de travailler debout. Mais je dis, il faudrait mieux perdre ce côté plus facile. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il pleut, moi c'est eu le cas par exemple, mais c'est complètement ma faute, hein, alors là-dessus, mea culpa, je m'en veux encore, c'est que quand ça fait une espèce de forme comme une cabane, par exemple quand on a de la neige, des choses comme ça qui s'accumulent dessus, ça a du mal à couler sur les côtés. Alors que quand c'est bien arrondi, ça va tomber jusqu'en bas. L'eau coule plus facilement, il suffit que dans la bâche, ça ne soit pas assez bien tiré à un endroit, vous avez changé, l'eau s'accumule plus facilement quand ça fait une espèce de cabane, alors que quand c'est bien ovale, quand c'est bien rond, l'eau va tout de suite en bas et ça ne touche pas la bâche. Voilà.
Bon.
Ça, c'est une chose qui est importante. Alors bien sûr, hein, l'idéal, c'est d'enterrer la bâche dans le sol. Alors quand on enterre la bâche dans le sol, ça veut dire qu'on la change pas.
Ouais.
Voilà. Ou si vous l'enterrez pas, mettez des sacs de sable. Voilà, donc ça, c'est important pour... Parce que des fois, les petites fixations qu'on vous propose de coincer, c'est pas suffisant. Hein. Les professionnels renforcent souvent avec des sacs de sable, hein, ou des sacs de terre, ou des... Voilà, mettre des briques, des fois, pour les... Là, je parle dans la position basse, hein, pour bien tenir le sol. Les briques, c'est souvent... Il y a souvent des angles pointus, des angles qui font que ça se déchire plus facilement, alors que le sac, ça c'est quand même bien parce que ça prend la forme quand vous avez jeté votre sac dessus, ça prend la forme et ça ne fait aucune intrusion, ça fait aucune coupure, donc ça c'est vraiment super. Autre chose, bien sûr, des marques, il en existe plein, allez des fois voir les professionnels parce que des fois ils revendent des morceaux de, ils changent leur tunnel et des fois de les récupérer c'est quand même pas mal. Moi j'ai eu le cas par exemple chez des maraîchers ou des jardins partagés ont récupéré ça. Alors des fois il y a du ciment dans le sol, hein, parce que les armatures sont tenues, mais en fin de compte la quantité de ciment des fois c'est comme un piquet, c'est pas très très important, hein, sauf quand le maraîcher ou l'agriculteur a été très généreux comme souvent c'est le cas. Mais bon voilà, ça va, ça se passe et puis après on arrive à les mettre tant que c'est une forme bien arrondie, on arrive à bien tendre la bâche.
Donc plutôt ovale.
Bien sûr, il faut Voilà, plutôt ovale, plutôt. Alors, la forme arrondie, hein, alors je sais pas comment on peut. J'espère que les auditeurs et les auditrices voient bien ce que c'est. Et moins le style cabane.
Ok.
Voilà, parce que le style cabane, ça fait des angles à un moment. Et ça favorise des fois, bah, quand il y a eu un petit coup. On sait bien qu'une bâche, quand il y a eu un moment de faiblesse, parce qu'il y a eu un appui de neige, d'eau, ou même de faire tomber quelque chose dessus, dès qu'il y a. C'est moins bien tendu, bah, l'eau glisse moins bien dessus.
Question, est-ce que tu as des marques coup de cœur, est-ce que
bon, voilà, moi je connais Tonneau qui est quand même voilà,
ok,
qui est bien, la marque s'appelle Tonneau,
d'accord,
hein. Voilà, aujourd'hui, alors après bien sûr il y a toutes les serres qu'on a, qui coûtent pas cher là, qu'on a, qui
c'est là
qui fourmille, ouais. Qui fourmille, alors pourquoi pas, la seule chose c'est que simplement pour faire ça se démonte, c'est à dire que quand vous l'utilisez c'est simplement par exemple pour faire les semis.
Mm-hmm.
Voilà, mais vraiment que ça, hein. Dans des, mais je parle même pas, c'est dans les barquettes, hein. Et une fois que c'est terminé, surtout ne pas le laisser tout l'été dehors, quoi.
Parce que justement le soleil va fragiliser,
voilà.
Etc. Okay.
C'est plutôt l'inverse de l'hiver, hein. Alors, c'est sûr que même pour l'hiver, c'est vrai, dans les grandes serres, si on pouvait les dénuder, ça serait bien, mais c'est compliqué,
quoi. Bien sûr. Bon.
Une fois qu'on, voilà,
en tout cas, corrige à Corinne, hein. Courage plutôt, oui. À Corinne plutôt, et à tous nos autres auditeurs, évidemment.
Voilà, voilà.
Eric, je te propose de partir en Suisse.
Ouais. Ah, j'ai encore un truc, oui. sur les tunnels, parce que des fois, on me dit, est-ce qu'il faut mettre des fois des tables? On appelle ça des tables, hein, dans les tunnels. Alors c'est vrai que c'est des fois plus facile pour travailler. Si vous n'avez pas les moyens, mettez plutôt de l'argent sur une serre de qualité. Et pour les tables, ce que je vous invite à faire, c'est prendre trois palettes.
Ouais.
Deux palettes, vous mettez verticalement, une troisième dessus pour faire la table. Une latte de bois pour attacher, pour faire un lien entre la première verticalité et la deuxième, comme ça, ça bascule pas, et c'est des tables qui sont à hauteur. Donc ça coûte rien.
Oui, ou alors on peut même aller sur de la récup, des tables, tu vas sur le Bon Coin, tu vas dans une ressourcerie, tu récupères une table, à la limite un peu en ferraille, comme ça, enfin un peu en ferraille.
Ouais, voilà.
Pas des pieds en bois qui vont pourrir dans la terre, mais on s'est compris, quoi.
Ouais.
De la récup, c'est ce qui te caractérise, ouais, aussi.
Oui, c'est, voilà, parce que des fois, ça coûte tellement cher, les ustensiles, oui, de serre, oui, que des fois, faut mieux, on met moins cher le type de serre, puis on a des ustensiles qui coûtent une
fortune. C'est ça.
Alors, des fois, voilà. Alors, bien sûr, hein, si vous avez les moyens, achetez-les, hein, ça fait plaisir aux fournisseurs de serre. Mais je veux dire, les trois palettes, hein, ça vous fait 1,10 m de longueur. Hein, c'est super, hein, ça suffit largement. 1,20 m de largeur sur 1 m, je ne sais plus combien. Mais là, ça vous suffit largement.
Palette, c'est 1,20 m sur 80, ouais.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Je te propose de partir en Suisse,
oui,
à Lausanne, au Bruce. Oui. Non, pas Brice, mais Bruce nous dit bonjour, j'ai découvert vos podcasts et j'ai déjà beaucoup de conseils, merci beaucoup pour tout votre travail. Oh, vous savez, Bruce, c'est pas du travail. Enfin, Eric, bon, je fais rien, moi. Je viens d'obtenir une parcelle au jardin familial de Lausanne, en Suisse, et les seules contraintes sont de ne pas utiliser d'engrais chimiques et de ne pas faire de monoculture. La terre et l'ensoleillement, pardon, sont bons, l'accès à l'eau direct. Le but est de pouvoir produire des légumes et quelques fraisiers, framboisiers en famille, donc deux adultes, deux jeunes enfants de 7 et 9 ans pour notre propre consommation. Bruce a 3-4 questions. Quel matériel de base conseillez-vous pour débuter?
Alors déjà, il faut le premier outil qui sert vraiment bien, c'est une fourche.
Ok. Ça c'est le premier. Voilà, mais quoi, fourche bêche?
Non, une fourche.
Okay.
Tout simple, voilà. Parce que à chaque fois, c'est bah tiens, j'ai pas de fourche. Je parle plutôt à l'envers, c'est-à-dire c'est plutôt les outils qui manquent au jardin. Quand on dit, bah tiens, j'ai pas de fourche, alors, parce qu'on dirait une fourche, ça va servir à quoi? J'ai pas de fumier. Bah si, une fourche, ça sert pas mal de choses, que ça serait pour déplacer des feuilles, du branchage. Donc voilà. Alors ça, en plus, on les trouve facilement. Je suppose qu'en Suisse aussi, vous avez type nous, Emmaüs, Envie et compagnie, où là, on a même des fois des fourches à paille et compagnie, à 3 dents, ça suffit largement. Hein. On n'est pas forcé. Donc ça, c'est vraiment important. Une fourche bêche.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire cette fameuse bêche, mais avec des dents.
D'accord.
Ce qui est aussi important, c'est d'avoir, je veux dire, un râteau.
Ouais.
Non, mais ça, voilà. Ce qui est quand même voilà, efficace, c'est la petite serfouette, hein. C'est-à-dire voilà, un outil qui est capable de passer entre deux rangs pour gratouiller le sol, quoi. Franchement, avec ça.
Et avec ça, on est bien.
Voilà. Alors après, on va dire, oui, une grelinette, parce qu'on peut aller souvent de grelinette, oui, alors pourquoi pas, mais une grelinette, ça coûte entre 100 et 110 euros, globalement, parce qu'il faut les prendre de qualité. Des fois, une fourche bêche suffit bien pour décompacter le sol, hein, dans un premier temps.
Si la surface n'est pas trop, et puis la terre a l'air très légère, ouais. Là.
Voilà, et puis après, j'ai oublié un outil, c'était la griffe, hein, c'est-à-dire l'espèce de fourche où les dents sont recourbées. Mm-hmm. Qui permet de gratouiller le sol sur les 15-20 cm, voilà, surtout si on a un sol sableux, limoneux, voire limoneux argileux, tant qu'il y a du limon, ça se passe bien. Donc là, ça permet quand même de faire un travail assez puissant, je dirais, sur 15-20 cm. Voilà, avec ces 5-6 outils, ça suffit.
Après, il y a un point aussi, hein, si Bruce est dans un jardin familial, l'idée, c'est peut-être aussi d'investir, voilà, ou de co-investir sur une grelinette, voilà, à 4-5, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais. La grelinette, justement, les autres outils, ça me semble compliqué parce qu'on en a tous besoin au même moment.
Ouais, la grelinette a le temps, quoi.
Voilà, le grelinette, voilà, même si des fois, à un moment, il y a un grelinage fou qui se fait dans le jardin, bon, on n'est pas une journée près. Mmh. Voilà. Et puis, sinon, le reste, voilà. Donc, mais il ne faut pas oublier que ces 5-6 outils qu'on dit, ça, c'est quand même une somme si on les achète neufs.
On est d'accord. D'où, effectivement, je ne sais pas s'il y a le bon coin en Suisse, mais en tout cas, d'où les possibles ressourceries, je ne sais pas comment on appelle ça en Suisse, mais d'où ce type de proposition. Eric, tu voulais rajouter ?
Non, après, il y a les petits outils de main. Ouais. Hein, qui peut être une houlette,
la petite pelle,
voilà. Voilà. Alors après, comme dit, hein, il y en a qui ont des désherbeurs, voilà, ça s'appelle un désherbeur, hein, un outil un peu long, un peu tranchant.
Une lame, ouais.
Mais il y en a des désherbeurs, ça peut être un grand couteau de récupération. Il y en a que c'est des outils qui ont un outil simple, hein, où c'est affûté, et puis voilà. Hein, après, voilà, mais voilà, globalement, la serre-fouette binette, voilà, la fourche bêche, voilà, la griffe à 3. Ah oui, pareil, hein, des fois, au niveau des dents, soyez à votre juste force. Parce que plus on a des dents dans un outil, bah, plus c'est une fourche avec plein de dents, bah, ça invite à porter plus haut, plus lourd. Mais des fois, des fois, il faut mieux d'avoir des outils un peu plus, à moins de dents, et qui permet peut-être de faire moins de largeur, mais qui est moins lourd, comme une fourche recourbée, hein. La griffe, par exemple, ben, y en a, ils sont des griffes à 4-5 dents, ouais, ben, faut y aller, hein, avec les bras pour le faire, hein. Des fois, une griffe à 3 dents est bien suffisante. Top.
Comment organiser spatialement la parcelle, mini-serre, combien de mètres carrés en pourcentage, espace réservé, compost, etc. Alors bon, déjà, on peut dire à Bruce d'aller sur notre blog parce qu'on a organisé un potager. Il y a plein d'articles que Eric vous a proposé avec ces fameux cas d'espace. Est-ce que tu peux résumer, synthétiser un petit peu comment tu vois les choses?
Disons globalement, il faut toujours prévoir aujourd'hui un espace pour la serre. Ça, c'est vrai. Je commence par ça parce qu'il y a une auditrice qui nous avait posé une question précédemment. Pour qu'une famille de 4 personnes, c'est-à-dire 2 adultes, 2 enfants, ben, jusqu'à 20 mètres carrés, 24 mètres carrés, ça peut être sympa. Mm-hmm. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, même en Suisse, même si j'ai appris qu'ils avaient la meilleure économie du monde là, cette semaine, voilà, chacun peut aussi produire des légumes, je dirais, ça doit valoir le coup en Suisse. Donc ces 24 mètres carrés sont importants pour un peu augmenter la période de production, c'est-à-dire commencer plus tôt et finir plus tard. Globalement, savoir un espace de légumes, non pas par rapport à la quantité qu'il faut imaginer, c'est plutôt par rapport à ce qu'on aime. Hein. Si on est légumes, fruits, ça c'est important, tomates, aubergines, courgettes, voilà, ça c'est important aussi. Après, les haricots, haricots rames, haricots nains, petits pois, ça c'est des choses qui sont importantes. Pommes de terre, peut-être pas. Des fois, il faut tellement de place pour la pomme de terre que ça vaut peut-être plus le coup d'aller acheter les pommes de terre, pour faire simple. Mmh. Et puis vraiment un grand espace pour tout ce qui va être courge coureuse, potimarron, butternut, voilà. Tous ces légumes qui sont coureurs, qui demandent beaucoup de place, mais qui produisent beaucoup. Après, tout ce qui va être, tout ce qui est, moi j'appelle poté, c'est-à-dire les carottes, les navets, les céleris. Il faut se poser la question, quoi. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans un jardin. Après, il faut faire les choses très sûres. Très valable, très efficace, qui donne envie, qui donne du courage.
Mais justement, conseillez-vous des semences de légumes plus faciles et qu'est-ce que vous conseillez, demandant moins d'expérience pour un premier cycle?
Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai dit avant, et puis après, dès que ça va être du poireau, des choses comme ça, bah, c'est un peu plus technique. Ouais. Voilà. Mais je dis pas que c'est compliqué, mais c'est plus
mais
technique.
Mais en gros, quoi, légumes du soleil, quoi.
C'est ouais, facile. Le plus simple, c'est les légumes du soleil, tout ce qui va courir, les haricots nains, les haricots rames, voilà. Après, dès qu'on va être dans la potée, le chou, bah, voilà, s'il fait très chaud, bah, d'un seul coup, on va être très déçu sur les choux d'été. Les choux, alors quand on dit été, ouais. début d'automne,
ouais, on est d'accord. Voilà.
Donc voilà, donc le fait ce qui est plus facile, puis après, ben voilà. Mais par contre, pensez à un endroit où mettre la serre.
Et tout conseil utile quand on part de zéro, bah, tu as un petit peu résumé, je pense, Eric, hein, effectivement, où tu nous proposes un certain nombre de conseils. Rendez-vous sur le blog.
Ouais. Bruce. Et puis surtout, surtout de penser au sol. Hein, donc là, c'est là aujourd'hui, en plus du matériel, il faut du matériel végétal, entre guillemets, hein, qui va couvrir le sol entre les feuilles et compagnie, quoi.
On va passer à Stéphanie qui nous dit bonjour à tous, merci pour votre formidable podcast, je l'ai découvert il y a quelques mois et je réécoute les épisodes des années passées. Pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu faucher en octobre la partie de mon jardin que je laisse en prairie
c'est
de
fauche,
ah ben voilà, où j'ai planté quelques fruitiers à courte tige l'an dernier. Et maintenant, avec les pluies qui s'enchaînent depuis quelques semaines, hein, à 8 messes, tout est détrempé pour que je le fasse. Que me conseillez-vous? Dois-je encore faucher dès que le temps sera sec, même en décembre, ou dois-je attendre le printemps? Merci pour vos conseils, précieux conseils, bien sincèrement, signé Stéphanie. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, le principe, de pourquoi, quand on a une prairie de fauche, pourquoi faut faucher? On pourrait dire qu'on a une prairie, on laisse faire. Hein. Le seul souci, c'est surtout quand ceux qui ont des très grands jardins. C'est-à-dire que si on a une prairie de fauche et on ne la fauche pas, le gros souci, c'est que va s'installer dedans des plantes colonisatrices, qui peuvent être de la ronce ou des ressemis d'arbres à proximité. Donc, au moins, d'aller jeter un petit coup d'œil dans sa prairie de fauche avec une bêche pour enlever tout ce qui va repousser. Voilà. Après, il y a le côté esthétique. Hein. Quand c'est fauché, c'est quand même un peu plus joli, quoi. Mais on peut le faire jusqu'au mois de décembre. En sachant que là, sur les conseils que je donne, en principe, c'est entre fin septembre, début octobre de faucher. Là, depuis le temps que il y a des gens qui me posent des questions individuellement sur la fauche, je dis, bah voilà, attendez début décembre maintenant, c'est plus possible.
Donc vaut mieux quand même un petit coup.
Ouais, voilà, parce que ça permet d'appauvrir un peu le sol en azote. Ouais. Parce que si on laisse le déchet de fauche, ça veut dire qu'on va l'améliorer et ça va installer les plantes colonisatrices. Le fait de faucher, ça permet de récupérer ce déchet et de le mettre au potager. Et justement, pour notre auditeur suisse, bah, ce déchet organique va être mis pour les jardins de courges, par exemple. Hein. Là, on peut accumuler à cet endroit-là tous les déchets de fauche, s'il y a. Et si, par exemple, vous avez des arbres fruitiers dans votre prairie de fauche, voilà, ce qu'on appelle une prairie verger ou un verger plus traditionnel ou familial, le fait de faucher permet d'avoir un point de gel plus bas. Parce que des fois, quand on laisse les herbes pousser un peu plus hautes, bah, le point de gel, c'est-à-dire le zéro, alors c'est pas grave pendant l'hiver, on s'en fiche complètement, mais c'est au printemps. C'est-à-dire que quand il y a des coups de gelée noire, plus le point zéro est bas, moins ça va toucher les branches, et notamment si on a des bastiges. Donc le fait de faucher permet de mettre le point zéro le plus bas possible et non pas à proximité des bourgeons qui vont donner des fruits.
Donc en résumé, on est même quel que soit son style, c'est quand même bien là de faire un petit peu un ménage d'automne. Voilà. Quoi, on va dire ça comme ça.
Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Et ça permet, comme dit, d'avoir une surveillance dessus et de favoriser, si on fauche, surtout si on a une prairie de fauche qui est très verte, donc c'est-à-dire très, très graminée, hein, poissée,
okay.
Ça permet de diminuer la quantité de graminées et ça va favoriser les plantes à fleurs.
Bon. Voilà, en tout cas, Stéphanie, donc dès que ça...
Mais rien de grave. Voilà, franchement...
Alors ça va. Voilà en tout cas Stéphanie qui a un petit peu de boulot dès que. Gabriel qui nous dit merci beaucoup pour vos réponses. Ce message n'était pas forcément destiné à passer à l'antenne, mais je vous promets de vous faire un retour. Je vais essayer de sauver le prunier selon vos indications. Gabriel nous avait écrit en nous disant,
ouais, je vous rappelle.
Il nous disait voilà sur la question du prunier avec un tronc. Hein. En effet, son tronc est court et il bouge sous le vent. Il faudra donc l'aider par un été après l'élagage. Quant à la serre horticole, bête et acier, bête et assis, je pense qu'il y a, un verre à mon avis, et assis que j'ai récupéré et monté. Elle n'a pas bronché, elle était lourde, solidement fixée au mur et protégée. Ouf, on attend votre chronique sur ce domaine d'ailleurs. Pour le moment, j'en ai fait installer un système d'arrosage par mini-aspersion posée au sol, alimentée par une pompe type vide cave plongée dans un récupérateur d'eau connecté au chenot de la serre. Quand il pleut dehors, bah, il pleut dedans. L'humidité va favoriser la décomposition par nos amis du sol, du compost de surface et de la fumure que j'y apporte cet hiver. Ça, c'est le top, ça.
Super.
Ça, c'est génial.
Oh, bah, alors là, nous, on aime bien les... ces infos parce que ça montre que c'est faisable. Parce que des fois, et c'est vrai, on me fait le reproche, enfin, sans faire un reproche, mais la remarque, de dire c'est toujours facile quand il y a un professionnel qui le dit parce que ça semble simple. Mmh. Mais quand c'est les auditeurs ou les auditrices qui font un retour, bon, je sais que souvent les auditeurs et les auditrices sont 10 fois, 150 fois plus, je veux dire, techniques, je dirais bricoleurs que moi je peux l'être. Mais il faut savoir que c'est faisable, quoi.
On est d'accord. On est d'accord. Ce système sera modifié lors des cultures des tomates, bien sûr, hein, pour avoir du goutte à goutte, mm-hmm. peut-être. Quoique l'été dernier, mm-hmm. je n'ai arrosé que par grande quantité, une fois par semaine, la terre retient très bien l'eau. Jardiment oui. vôtre, signé Gabriel. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire on est bon là.
Bah oui, on est très bon parce ouais. que le principe c'est que il pense améliorer son sol et un sol qui est amélioré ou je veux dire maintenu dans sa bonne qualité fait qu'il sera très réactif aux arrosages d'été. Hmm. C'est ça le but du jeu parce que quand le sol a passé là quand on voit un sol qui est dur comme tout dans sa serre jusqu'au mois de mai. Où là, il va peut-être retrouver un peu d'eau parce qu'on va arroser les pieds de tomates qu'on a mis dedans. Bah, c'est pas en une fois que le sol va s'améliorer. Il faut savoir par exemple que les professionnels, avant des fois de faire un semis pour qu'il y ait après une production, des fois ils arrosent en goutte à goutte ou on a des journées entières
pour tremper,
pour détremper le sol. Sans que ça soit de l'eau qui va, je dirais, lessiver le sol. Hein. C'est un arrosage, mais léger, léger, pour redonner. Bien sûr, le sol est toujours sympa, c'est que dès qu'on va lui donner de la flotte, ça va redonner de la vie tout de suite. Mais si, là, dans le cas, le sol n'a pas... Enfin, un sol de serre, hein, on parle beaucoup de serre aujourd'hui.
Oui.
Si un sol de serre n'a pas perdu sa qualité de sol... et qu'il y a eu, pour faire simple, automne, hiver, printemps, c'est quand même super.
Bien.
D'ailleurs, c'est le témoignage de l'auditeur.
On va continuer avec Gaël qui nous dit tout d'abord un grand merci pour votre podcast. C'est un vrai plaisir d'apprendre l'art du jardinage en vous écoutant. J'habite dans le Berry. Question sur un pied de figuier marcoté. Cette année, j'ai donc réussi à marcoter mon figuier. Il a pris racine. Tout va bien. En septembre, après les fruits, j'ai donc coupé la branche pour la séparer du pied mère. T'approuves ?
Parfait.
Ok.
Ah, super.
Mon idée était de replanter mon mini figuier dans notre nouveau jardin à l'automne, mais les bourgeons dormants ont éclos quelques semaines après. Du coup, je ne suis pas certaine de savoir ce qui est préférable, le replanter malgré tout ou attendre le printemps prochain.
Non, il faut le planter tout de suite. De toute façon, même s'il peut y avoir un dérèglement, parce que ce qui s'est passé, c'est que les arbres, à un moment, là, je redonnais mon histoire de prune qui pousse déjà sur l'arbre, là. C'est qu'à un moment, l'arbre, suite au coup de stress de cet été, il ne savait plus si c'était le printemps, l'automne. Mmh. Et le fait de le séparer de la mer, entre guillemets, ça l'a stimulé et il s'est dit, tiens, ça y est, c'est le printemps. Quoi. Mais il ne faut pas oublier que le figuier, il y a plein de bourgeons dormants qui vont en démarrer. Hein. De toute façon, c'est pas les bourgeons d'une marcotte, c'est pas celles-là qui sont le plus important, c'est le reste.
Donc tout va bien. Donc,
ouais, tout va bien. Et ça, merci à cette auditrice d'avoir proposer ça, on ne fait pas assez de marcottage.
Donc marcoter, ça fait des économies.
Ouais, c'est marcottage, c'est super parce que des fois on a tout tendance à bouturer, c'est-à-dire séparer tout de suite la branche du pied mère et de le mettre au sol. Mais on est des fois sûr de rien, alors que des fois on a des branches qui sont à plat, qui sont sur le côté ou qui se sont marcottées tout seul. Des fois ça se met en racine très rapidement.
On est d'accord. En tout cas, je vous remercie pour votre aide et longue vie à votre podcast signé Gaël. Et on va terminer cette longue série de questions par Rudy. Bonjour Eric et bonjour Brice. Alors c'est C'est intéressant parce qu'on va le dire en toute transparence, parce que là, il soulève un point et on va voir ce que tu en penses. À une semaine de la Sainte-Catherine, donc c'était il y a quelques jours, hein, notre auditeur, là, Rudy, je prévois d'aller acheter mes petits fruits et autres racines nues afin d'être prêt dès que nous aurons deux jours successifs sans pluie. Faut bien choisir. Bravo. J'aimerais votre avis sur les vendeurs de végétaux et de comprendre les différences d'offres et de prix. Alors c'est un peu compliqué parce que bon, on va dire les choses très clairement. Rudy, nous vendons aussi des framboisiers sur notre site et puis bah on va comparer, même si faut-il chercher un prix ou faut-il chercher au final quelque chose de qualité. Donc option 1, les pépinières familiales entre 12 et 15 euros le pied selon la variété. Au passage, difficile d'avoir une idée des prix sans se déplacer et consulter des catalogues sur place. Option 2, les grandes surfaces de jardinage que tout le monde connaît, tout ça aligné autour de 8 euros. Après, il faut voir si c'est bio ou pas, hein, toujours pareil. Les pépinières en ligne, j'en ai repéré une dont les serres sont à côté de Tourcoing, donc près de chez moi, ce qui éviterait aux végétaux de traverser la France. Oui, encore faut-il que, effectivement, tout soit géré là-bas et tout soit produit là-bas, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, Rudy, on va dire.
Je dirais qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs.
J'ai aussi plus de chances que les variétés soient adaptées à mon terroir. Pas sûr, parce qu'une pépinière en ligne, par définition, vend en France entière, voire en Europe entière. Prix à partir de 6,50 € l'unité, si acheté en lot. J'en ai vu que vous en vendiez aussi à partir de 11,50 €, mais c'est des pieds bio, donc les prix ne sont pas forcément comparables pour cet exercice. Tout à fait, Rudy, c'est ce qu'on disait il y a deux secondes. Et les pépinières géantes belges, hein, j'ai acheté des pieds de framboisier pour moins de 5 € l'an dernier. À partir rapide sur ces pépinières belges, c'est comme trois Jardiland avec une offre très large. J'ai jamais vu ça ailleurs. Le magasin est plein toute l'année, etc., etc., etc. Comment expliquer que les prix aillent du simple au triple? J'ai constaté des écarts dans la même proportion pour les pommiers et les pruniers. Est-ce que je dois m'attendre à des différences de reprise ou de production selon mon choix? Et bien que ma préférence aille pour la petite pépinière du coin, j'avoue que le paramètre prix m'interpelle. Merci pour vos éclairages. Et comme chaque semaine, j'attends vendredi avec impatience. Et pour être tout à fait complet, nous, on est entre 11,50 et 14,50, grosso modo. Donc, on est sur un pot de 1,5 litre, un pied bio. Et pour être tout à fait transparent avec vous, c'est produit dans l'ouest de la France. Voilà. Mais pour le coup, c'est vraiment produit dans l'ouest de la France et ce n'est pas de l'import de Hollande comme on peut trouver sur certains sites internet et chez certains professionnels, même s'ils ont des très grosses serres. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, Eric, je te laisse la parole.
Bah disons que, alors il y a un point qui est important par rapport au prix, c'est des fois la dimension du
pot.
Du végétal. Du
pot, c'est ça.
Voilà, c'est. D'ailleurs, vous avez peut-être que votre pépinière locale, que même si Mon Jardin Bio Poitcamp vend des végétaux, on dit toujours allez voir les locaux, quoi. C'est un peu la logique. Mais il faut pas oublier que des fois quand vous allez chercher un groseillier, un cassissier qui est souvent vendu en godet. Bah des fois, dans le pépinière local, c'est vendu racines nues.
Oui.
C'est-à-dire, vous allez les chercher, les racines sont dans le sable, et des fois, vous avez. C'est plus un groseillier, un cassissier que vous avez, c'est un arbre. Faut savoir que tout est calibré pour que ça soit dans des godets et compagnie. Alors, des fois, que quand c'est acheté racines nues, c'est un monstre que vous allez acheter. Oui. Hein. D'ailleurs, je sais que mon pépiniériste local m'en veut des fois quand je dis ça. Acheter un arbuste. Chez lui, voilà. Et puis après, vous le coupez à ras. Voilà. Donc vous le recépez total. Et les 8-10 branches qui servent de support, vous le bouturez. Donc c'est-à-dire, au lieu d'acheter un groseillier, vous en achetez. Au lieu d'acheter 7 groseilliers, vous en achetez un. Comme ça, vous en avez un qui va reprendre, s'il y a ses racines. Et les autres, vous les bouturez. Comme ça, ça vous fait gagner 5 groseilliers d'un seul coup. Bon, ça, c'est une chose. Et souvent, le prix, c'est la grosseur. Hein, c'est clair. N'achetez pas, même si ça peut marcher, hein, mais c'est un peu le côté conviction dans une jardinerie des marques commerciales, type Auchan, Super U, Leclerc. Voilà, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les végétaux sont à l'intérieur et quand vous récupérez ces plantes qui ont des voies poussées, c'est-à-dire que quand vous allez les récupérer au mois d'octobre, mais eux, ils sont déjà au mois de février, mais février-mars. Ils sont de très mauvaise qualité. Il n'y a pas le côté sanitaire aussi, notamment pour les arbres fruitiers. Il n'est pas sans virus, hein, ce qui est pas le cas chez les pépinières certifiées et compagnie. Parce que ça aussi, c'est important. Pourquoi on parle du problème de virus? C'est que le virus, des fois, c'est le fruit. c'est aux fruits. C'est-à-dire que vous avez mis un arbre, par exemple à haute tige, 10 ans après, vous avez planté votre arbre, et puis en fin de compte, il n'est pas indemne de virus, donc l'arbre, il est malade. Et pourtant, il était des belles branches, des belles feuilles, mais c'est sur fruits. Donc virus sur fruits, c'est terrible, hein, parce qu'on le sait que quand il y a les fruits, des fois, il faut attendre 10 ans avant d'avoir des fruits en quantité. Donc ça, c'est... Voilà. Donc globalement... c'est un peu comme les paquets de graines, pareil, hein. Le prix ça veut rien dire, c'est le grammage, hein. Voilà. Combien qu'il y a de graines, le poids, entre 1 gramme et 3 grammes, sur des graines c'est hyper important, donc faites attention, mais souvent le gabarit, alors moi je suis plutôt allé voir des professionnels, même si c'est des professionnels qui vendent et qui vous envoient le matériel, faut que ça soit des pépinières, franchement.
Donc plutôt, et après, alors si on cherche effectivement un prix, il y a effectivement les bio, pas bio, ça c'est chacun fait comme il veut, vous connaissez notre ouais. avis là-dessus, mais c'est effectivement le pot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en positionnement, ouais. C'est sûr qu'un pot de 1 litre et demi, c'est pas un pot d'un litre, donc 1 litre et demi, ouais. normalement vous avez un développement racinaire qui est là, et après c'est est-ce qu'on fait confiance effectivement aux professionnels, alors que ça soit sur du local, nous on fait que des petits fruits, hein. on fait pas de pommiers, on fait pas de poiriers, parce que c'est beaucoup plus compliqué effectivement d'envoyer ça, de façon très claire, et là honnêtement il faut après sur des framboisiers, sur des petits fruits, on a quand même plusieurs variétés qui sont un peu passe-partout, on va dire, et s'adaptent facilement. Après, ça ne veut pas dire que dans un hard discount sur une promo, un framboisier à 4,90 va pousser à l'envers, quoi. Enfin, on va dire les choses clairement.
Non, mais c'est ça.
Voilà.
Voilà. C'est faut savoir.
C'est pas forcément français, quoi. On va le dire aussi, ouais. quoi. Au bout d'un moment.
C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que même votre pépiniériste, des fois, qui vendent localement,
bien sûr.
Ce qui est assez fou, c'est que vous allez dans toute la France, c'est la même étiquette.
Ça.
Quand c'est la même étiquette, notamment sur les petits fruits, c'est toujours les mêmes étiquettes.
C'est ça.
Donc ça montre bien que c'est pas lui qui les produit. C'est un peu compliqué. Hein. Quand à l'époque, avant les framboisiers, par exemple chez mon professionnel, c'était même pas en conteneur. Il allait les chercher au frigo. C'est-à-dire qu'il les vendait par 10, avec un raffia autour. C'était au frigo pour que la pousse arrête. Et donc vous alliez les chercher comme ça, quoi. Hein. Et donc racine nue, là vous êtes sûr que quand c'est racine nue, c'est le local. Hein. Ça c'est pas. Quand on dit racine nue, ça peut être racine dans du sable.
Hein,
c'est-à-dire en pépinière. Voilà. Donc globalement là-dessus, faites attention à la dimension, à la grosseur. Et pareil, quand vous lisez un catalogue, regardez bien aussi quand on marque du 10-12 par exemple, sur un arbre, ça veut dire du diamètre. Quand c'est marqué 100 ou 200, ça veut dire plutôt en hauteur. Ça veut dire que c'est un plan de 1 mètre ou de 2, entre 1 mètre ou 2 mètres. Quoi, hein. C'est comme ça que ça se... Et là, la comparaison peut être d'une simple au double parce que le pied est de... Voilà. Un peu... Et puis après, quand on va dans des variétés passe-partout, les prix sont un peu plus les mêmes.
Ouais.
C'est normal que quand c'est quelque chose de spécifique... D'ailleurs, les arbres, je dirais, si vous achetez à distance, oui, bien sûr, vous pouvez le faire, mais parce que c'est des choses très spécifiques. Mais si c'est du... C'est sur un pommier, allez voir votre pépiniériste local, franchement. Hein,
si on résume rapidement, sur les petits fruits, on parle effectivement, ouais. évidemment, de regarder, bon, bio, pas bio, il y a forcément une différence, ça c'est le premier point. De regarder si c'est fabriqué en France, parce qu'on va le redire, sans faire notre Arnaud Montebourg, mais derrière, de produire en France, ça coûte plus cher dans la grande majorité des cas, parce que derrière, il y a effectivement une masse salariale, hein, on le sait tous, hein, qui est plus importante que dans certains produits. Et puis, il n'y a pas forcément des mastodontes, on sait que la Hollande, c'est un pays producteur de végétaux, mais aujourd'hui c'est pareil sur les roses, sur les fleurs coupées, on sait qu'il y a un énorme marché là-bas, on sait que sur les plantes aussi la grande majorité sont produites là-bas, ça c'est la réalité. Et puis après la contenance, parce qu'encore une fois entre 1,25 et 1,50, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes frais, donc, et la hauteur aussi, encore une fois, si on vous vend un truc qui fait 15 cm pardon, de haut, et puis à côté, sur un site internet ou même chez un professionnel, il vous vend 30 à 40 cm de hauteur, c'est pas la même ampleur, c'est pas le même fruitier, donc on peut pas, enfin le petit fruit, donc on peut pas forcément, c'est compliqué un peu à comparer. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Bon, Eric, on a répondu à Rudy là.
Oui, je crois. Et puis, la notion de prix, faut un peu chercher. Alors bien sûr, après, c'est pas la peine de faire passer. De faire 50 km aussi, hein,
voilà.
aussi
pour deux framboisiers.
Pour deux framboisiers. Ouais, quoi,
on est d'accord.
Des fois, il faut mieux peut-être les commander, hein, ça vous coûte moins cher.
Oui.
Et en plus, il y a plus une logique. Hein. Des fois, il y en a qui font tout le département pour trouver les. Alors, bien sûr, si vous avez un professionnel qui va planter 4000 arbres, Voilà, c'est normal. Mais quand vous avez deux arbres, voilà, vous ne prenez pas la tête. Hein.
Bon, on rappelle à tous nos auditeurs, évidemment, qu'ils peuvent nous contacter sur contact@monjardinbio.com, évidemment. En tout cas, on vous remercie pour votre interactivité. On vous dit bien sûr à la semaine prochaine. Entre-temps, et puis désolé, bah, on peut pas. On essaye effectivement de traiter le maximum de questions dans cette émission. On va souhaiter bonne année, Eric.
Oui, c'est ça, parce que bon, bien sûr, hein, c'est toujours à la même époque. On va souhaiter la bonne année parce que il faut pas oublier que le jardin, on va mettre une temporisation. Et le tempo du jardin, comme on le fait souvent au début de chaque podcast, y a le grand tempo, c'est-à-dire quel est le grand tempo, c'est-à-dire le 1 an, comment ça commence. Nous, c'est simple, on s'adosse toujours au milieu naturel et on met toujours en avant la forêt, donc l'arbre, pour faire simple. Et donc, nous, notre tempo, c'est de dire le jour 1 du jardin, c'est le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune. Donc là, on est en pleine période. Alors, c'est assez fou, c'est la première. Le jardin permet que le premier jour de l'année n'est pas toujours le même jour. Déjà sur le territoire français, et puis d'année en année, ça évolue. C'est-à-dire qu'avant, on était plus entre le 25 octobre et le 5 novembre. Voilà. Là, depuis 2-3 ans, la grosse chute de feuilles, elle est plutôt entre le 15 et le 15 novembre et le 1er décembre. Donc, on voit une évolution par rapport au changement climatique. Mais ce qui est bien, c'est que comme c'est un événement qui permet de lancer la chose, on s'en fout de la date, en fin de compte.
Oui, c'est plus un stade, un stade là à constater que au final...
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et qu'on soit, par exemple, en plaine ou qu'on soit en montagne, c'est pas la même chose non plus. Donc, c'est ça qui est pratique, c'est de trouver toujours un événement. Alors, j'espère qu'un jour, les feuilles ne tomberont pas en mois de février, parce que là, ça sera vraiment très tard. Mais il faut savoir que le jour 1, il faut faire ça. On vous dit, tiens, aujourd'hui, il a les feuilles. Ils ont chuté d'abord sans les feuilles. Ça fait 2 ans. Ils chutent depuis le mois d'août. Hein, donc on pourrait dire que l'automne commence au mois d'août, mais ce n'est pas les mêmes chutes. Et là, des fois, vous dites, il a fait un bon coup de froid. Les feuilles ont chuté. Ouais, ça fait un mois que ça chute. Et là, vraiment, tout est au sol. Vous dites, c'est le jour 1. Donc ça veut dire c'est avant ce jour-là et juste après, pour faire simple, hein, c'est un jour qui est en rallonge. Hein. C'est pour ça que des fois j'appelle ça le jour le plus long, bien qu'on va vers le jour le plus court au niveau, durée de journée. Mais c'est le jour très long, pourquoi ? Parce que ça va être très long pour le jardinier s'il veut tout faire. Pourquoi l'intérêt ? C'est qu'on a bien vu que la forêt se débrouille tout seul grâce à ces moments, à ces événements, et notamment l'événement de la chute de feuilles permet de reconstituer les sols en humus, qui va permettre d'améliorer la qualité du sol ou de continuer à avoir un sol de qualité. Et grâce à cet humus qui est dans le sol, ces ressources qui sont reconstituées, la dégradation de l'humus grâce à l'action des micro-organismes et des macro-organismes du sol, l'humus et les micro-organismes, va permettre de nourrir quand l'arbre le veut, donc la forêt se nourrit quand elle le décide. Et c'est bien aussi, c'est que les feuilles qui vont tomber sur le sol aujourd'hui, on le voit, en plus avec la pluie qui tombe, elles sont grasses très, très rapidement, ce qui n'était pas le cas de l'année dernière. Et donc, la décomposition va être beaucoup plus rapide. Et là, vous voyez, vous allez le voir encore dans les semaines qui vont venir, jusqu'à début décembre peut-être, parce qu'après, il va peut-être faire trop froid. C'est l'action, vous voyez, plein de turricules, des amas de terre sur le sol. C'est que les vers de terre, ce qu'on appelle les lombriques terrestres, ceux qui montent et qui descendent, vont chercher les feuilles, les broies, et grâce à l'action de leur... bactéries qui sont dans leur transit intestinal, si on peut appeler ça comme ça, va permettre de mélanger qui est plutôt minérale, avec la matière organique de la décomposition des feuilles et former ces fameux turricules qu'on va retrouver en surface. Donc ça, on le voit bien s'exprimer. Donc quand il y a trop de flotte, on le voit moins bien, mais là, avec ce qui est tombé sur le sol et compagnie, les vers de terre, il va en avoir plein, et ça, c'est pour le meilleur des bonheurs. Alors ce qui est fou, c'est que quand il pleut comme ça, il y a une forte activité, ça va favoriser à l'eau, l'entrée de l'eau dans le sol sans le lessiver, donc c'est quand même super. Ça va favoriser l'activité des vers de terre parce que là, ils vont être fort actifs, sauf s'il fait moins 20 la semaine prochaine, donc ça, on n'espère pas, qu'il y ait un véritable automne et qu'il n'y ait pas un hiver qui tombe sur nous, on pourrait l'imaginer, alors là, c'est pas très bon. Ce qui est important, c'est que là, on est dans cette logique, donc ça veut dire que pour le jardinier, ces feuilles qui sont utilisées naturellement en forêt où naturellement dans ces espaces verts, dans ces espaces de, je dirais, environnementaux, ces espaces de loisirs, ces espaces plutôt de, d'aménagement, laisser des feuilles au sol. Voilà, alors je n'ai pas dit de laisser 3 mètres cubes de feuilles au sol, hein, c'est de laisser un peu de feuilles. Comme ça, ça permet, voilà, tout simplement, sans nourrir vos arbres, parce qu'il n'y a pas plus bête que de ramasser les feuilles et après d'acheter du compost ou des engrais pour améliorer la qualité de développement de ces arbres. Laisser les feuilles qu'il vient de perdre, c'est géré par les micro-organismes qui vont nourrir l'arbre, et ainsi de suite. Ça fait un cycle complètement vertueux pour le côté fertilisation. Et il reste ce qu'on appelle en autogestion. Donc, sauf s'il a vraiment besoin d'un coup de boost parce que les conditions de vie ne lui correspondent pas. Donc voilà, donc c'est ne faites rien, laissez des feuilles sur le sol. Si vous voulez favoriser la chose et donner un petit coup de main aux vers de terre, bien qu'ils n'ont pas forcément besoin de vous parce qu'ils sont là depuis un bout de temps. Mais si quand il va se raméliorer le temps, vous broyez ces feuilles avec la tondeuse, ça va favoriser la décomposition et le fait que ça soit mangé par les vers de terre. Et si vous rentrez dans votre jardin à un moment et vous râlez parce que vous avez plein de terre qui a collé au pied, parce que la turricule, c'est un, voilà, c'est un colloïde, donc ce qui veut dire que ça colle, parce que ça fait ce fameux complexe argilo-humique, hein, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Si vous râlez, et ben tant mieux, parce que ça veut dire que vous avez un sol qui est super actif. Plus vous râlez et plus vous ramenez de merde à la maison au pied des, avec plein de chaussures, bah plus c'est que vous avez un sol de qualité. Donc ça, c'est une super bonne chose. Ça, c'est la bonne nouvelle pour votre jardin. Donc là, vous n'avez même pas besoin de faire d'analyse de sol et compagnie. Vous dites, voilà, j'ai un sol de qualité. Voilà. Pour faire simple.
Si on résume, donc le jour 1, c'est grosso modo là, avec en fonction des... Tu nous dis entre le 15 octobre et le 30 novembre 2023, à peu près, ouais. On va dire ça, ouais. Comme ça. Tu constates aussi que depuis quelques années, la chute a été... plus tardive parce que l'année, enfin en 2021 pardon, l'année a été plus tardive parce qu'on a eu des pluies, hein. L'année a été, mmh. a été très pluvieuse aussi, et puis globalement c'est à ce moment là qu'on commence véritablement les travaux du sol, évidemment quand le sol est ressuyé, etc., enfin tout ce qu'on s'est dit, mais faut s'inscrire dans cette idée là
complètement. Il faut se laisser un peu faire par les feuilles qui tombent sur son jardin, voilà. N'oubliez pas que s'il y a un peu de feuilles dans votre jardin, bah, ils sont vite bouffés par les vers de terre, hein, ou par les organismes du sol, maintenant et un peu plus
tard. Alors justement, ça c'est le point aussi, Eric, pardon je te coupe, mais on sait qu'il y a une feuillophobie assez forte de la part de certaines personnes. Toi, ça t'énerve, tu nous dis régulièrement récupérer tout ce qu'il faut, tu nous dis c'est l'or du potager, c'est l'or du jardinier, c'est un trésor. Les feuilles...
Oui, c'est pas cher, c'est pratique, c'est partageur... C'est vraiment, donc si la forêt, de toute façon on a le super exemple, hein, si c'est la forêt qui pousse, c'est que parce qu'il y a des feuilles.
Hein. Donc c'est pas grave de laisser des feuilles au sol en dessous de son pommier.
Bah non, voilà, c'est ça le but du jeu. Alors même si c'est des feuilles qui peuvent peut-être vous paraître malades dans le jardin nourricier, par exemple sous un pommier, un cerisier, bah si ça vous pose problème, bah vous prenez ces feuilles, vous le mettez dans le potager, vous changez d'espace, comme ça, comme c'est pas les mêmes maladies, ça pose aucun souci. Et c'est aussi le fait que, on le voit bien, hein, aujourd'hui les feuilles. Là, les grosses pluies que l'on a, alors je parle bien des grosses pluies, je ne parle pas des inondations, hein. Mais les feuilles qui sont tombées sur votre sol, voilà, et il a plu dessus, ça a protégé votre sol du lessivage de la pluie. Quoi.
Ça fait un paillage.
Fait une espèce de matelas, ça fait une grosse éponge, ça ramollit, les feuilles sont ramollies, sont vite mangées, et vous verrez, là, ça c'est la bonne nouvelle, vu que les réserves d'eau se reconstituent, la qualité des pluies, alors je parle bien sauf inondation, on est bien clair là-dessus, hein, parce que on ne fait pas d'humour.
Évidemment.
Je sais que des fois je suis un plaisantin, mais là je ne fais pas d'humour sur les inondations. Là il faut savoir que le sol sera très bonne qualité. Donc ça promet une année 2024 qui commence maintenant, là. Ce qui pourrait être assez exceptionnel, sauf si les températures déconnent. Quoi.
Bien. Est-ce qu'on a fait le tour justement de ce jour 1 ?
Voilà, encore quelques missions. Donc le jour 1, c'est ça. On couvre son jardin de feuilles, de paille, de foin, si vous voulez. Hein. Mais si on a des feuilles, c'est gratos, donc autant en profiter. Mais c'est aussi les derniers déchets, déchets de plantes en pot, les reliquats qu'on a, les déchets qu'on a coupés, les géraniums, par exemple, qu'on va bientôt rentrer, ou les plantes qu'on va mettre à la cave, couper de moitié. Faut pas qu'il y ait trop de masse végétale parce que sinon le végétal prend trop de force et il s'effiche et puis il tombe. Voilà, ça sera un peu compliqué. Mettez ça tout ça au jardin. Et puis, si vous voulez un peu bêcher, mais on en reparlera peut-être la semaine prochaine, bah, c'est le moment. Hein. Si vous voulez demi-bêcher, c'est à cette période. On met du fumier décomposé ou plus ou moins décomposé sur le sol et on couvre de feuilles. C'est le moment aussi où on va planter. C'est le moment aussi où on va bouturer. C'est le... Donc voilà, c'est vraiment voilà, c'est un jour qui va être très long. Quoi.
Un jour très long. Oh. Ouais. Un jour très long. Le jour le plus long. Voilà, évidemment, ça comme une musique, mais le jour le plus long. Même si les nuits s'allongent hein, et les jours raccourcissent, ouais. Évidemment. Tu nous dis en gros que le jour 1 2023 au jardin, c'est maintenant.
C'est maintenant.
Donc bonne année voilà. À tous les jardiniers et toutes les jardinières.
Non, pas 2023, 2024.
Oui, 2024, pardon. Le jour 1 2024 au jardin. Même moi, je me plante, tu vois. Voilà. Donc on est d'accord. Mon cher Eric, est-ce qu'on a fait le tour justement du conseil de ce qu'on doit faire?
Là, il y a tellement. Là, maintenant, d'un seul coup, il y a du boulot. Hein. Alors ça va être terrible parce que pour ceux qui voudront le faire, ne pourront pas parce que le sol est gorgé d'eau. Et il pleut, mais une fois que c'est arrêté, il y a des choses à faire.
Bon. Eric, est-ce qu'on a du coup fait le tour?
Oui, on a fait le tour.
Bon, on est bon?
Oui, donc là, maintenant il y a le faux dicton.
Maintenant il y a le faux dicton, justement, mais je rigolais justement quand les feuilles débarquent. Tombent, Eric, le dicton.
Bah, c'est que quand les feuilles débarquent, c'est le jour le plus long.
Voilà, un petit clin d'œil, effectivement, au débarquement des feuilles, mais il ne faut vraiment pas le voir parce que je sais que ça t'énerve. Il ne faut vraiment pas le voir comme un. Comment dire?
Ouais.
Comme un embêtement, comme toi tu au contraire récupérer même les feuilles qui sont au chez les voisins qui veulent la déchetterie
je peux comprendre que les feuilles ça peut rentrer dans une gouttière, je sais, mais ça correspond à tellement peu de jours dans l'année et que c'est peu de jours dans l'année qui peut peut-être embêter les uns et les autres, ça représente tellement une chose importante pour le sol. Donc voilà, c'est un petit effort à faire. Quoi.
Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment.
La semaine prochaine.
Mais avant, on parle quoi? On parle du dernier mot?
Bah oui, restez chez vous. Ne sortez pas, restez chez vous. Alors, après tout ce qu'on a dit qu'il faut bosser, mon mot de la fin, c'est dire tant que ça colle au pied, restez chez vous. C'est comme la semaine dernière, c'est marrant comme les jours se suivent et se ressemblent. Mm-hmm. Mais c'est comme ça.
Bon, Eric, à la semaine prochaine.
Ouais. À la semaine prochaine.
Salut à tous, rendez-vous entre-temps sur Instagram, Facebook évidemment et réécoutez toutes nos précédentes émissions comme le font de nombreux auditeurs. Salut.